Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview
ici
du
Radio
jour.
Diwa. Sur les ondes FM en 107.5 ou alors sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, pour l'interview, nous recevons Judith. Judith, bonjour.
Bonjour. Alors, merci de me recevoir.
Oui. Judith, tu peux nous expliquer la raison de ta présence dans ce studio, s'il te plaît ?
Alors, on va dire que j'aurais beaucoup de choses à te dire à propos d'architecture, mais ce qui me fait venir aujourd'hui en particulier... Donc un événement qui se passe en fin de semaine partout en France, vendredi et samedi, ce sont les architectes qui ouvrent leurs portes pour venir découvrir les coulisses de l'architecture. Donc ça m'a paru intéressant pour ma part, chacun est libre bien sûr de s'inscrire ou non. Et moi, ça fait seulement un an et demi que je suis installée sur Die et je me suis dit que c'était intéressant par rapport à tout ce que je suis en train d'entreprendre en ce moment, d'ouvrir mon agence, ma mini-agence, rue de Chastel à Die, et de dire à tout le monde qu'il est le bienvenu pour venir parler d'architecture, de paysage, de sensibilisation à l'architecture, de vos projets, de vos idées, éventuellement envie pour Die, etc.
Donc c'est une journée dédiée aux architectes, et qui sont à peu près 30 000 en France actuellement, et je voulais savoir quelle est pour vous cette nécessité de vous ouvrir, puisque apparemment c'est la première fois que ça se passe.
Alors oui, je crois que là, ça a commencé l'année dernière en Aquitaine, et puis cette année ils ouvrent, comme ça s'est bien passé, ils ont proposé de faire ça sur toute la France. En fait, on constate tous que l'architecture est méconnue en fait, que ce soit dans l'ensemble, par le grand public ou autre. On aurait envie de sensibiliser les gens à notre métier, avoir bien sûr plus de reconnaissance. C'est assez difficile pour les architectes en ce moment, à part quelques grandes agences ou architectes très médiatisés, à Paris par exemple, mais sinon pour des plus petites agences qui travaillent de manière un peu plus artisanale, ce qui me concerne. L'accès à la commande, de pouvoir aller jusqu'au bout dans nos projets, d'arriver à se faire payer, de se faire reconnaître n'est pas facile. Et du coup, il y a sûrement le fait que les gens connaissent très très mal cette discipline qui est un peu particulière. On croirait qu'on pourrait s'en passer, mais moi je considère que c'est difficile de passer d'un architecte, même si c'est pour... planter un arbre dans son jardin, bon ça serait bien sûr avec un paysagiste qui sera d'ailleurs peut-être un petit peu là pour ses portes ouvertes, une paysagiste qui s'appelle Jeanne, qui est aussi sur Die depuis pas très longtemps.
Et qui est voisine.
Est aussi ma voisine, donc ce serait l'occasion sûrement d'entreprendre des choses ensemble, dont peut-être une association. Mais surtout, voilà, dire qu'à partir de 10 mètres carrés, 2 mètres carrés, l'obligation c'est 170 mètres carrés quand on construit quelque chose aujourd'hui pour... devoir s'adresser à un architecte, mais moi je considère qu'on devrait, même si on fait de l'autoconstruction, même si on fait soi-même, aller vite vite avant tout, concevoir un espace avec un architecte. Je pense que ça devient une expérience complètement différente.
Justement, alors si tu prônes, disons, une disponibilité pour le moindre petit changement ou de rénovation, tu estimes que même à partir de 10 mètres carrés, tes connaissances seraient bienvenues. Mais alors, comment ça se monnaie justement, comment ça se passe au niveau d'un budget par exemple?
Au niveau d'un budget, en principe, un architecte, il est payé par rapport au montant des travaux, ce qui fait souvent peur à tout le monde. Les gens ont l'impression qu'on va essayer de faire que ça coûte cher pour gagner plus d'argent. Donc ça marche peut-être pour des gros projets ou... En tout cas, ce n'est pas du tout mon éthique de travail. Moi, l'idée, ça serait même pour pas grand-chose, donner simplement les bons conseils aux gens au départ, même s'ils font eux-mêmes. Après, avoir un peu vu qu'on a souvent, on va dire, une vision, je pense, plus large, et puis on a une bonne vue de ce que pourrait être l'espace à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a démoli ou cassé quelque chose, une fois qu'on a refait un choix de matériaux. Et puis, moi, je dis dans 10 mètres carrés, voilà, c'est des matériaux, c'est des choix de couleurs qui sont souvent très subtils, qui se choisissent sur place, avec la lumière, avec, en coordonnance, bien sûr, avec tout le reste, pour trouver une harmonie. Et pour, bien sûr, ben, agrandir l'espace. On est aussi là pour essayer de faire que 10 mètres carrés en soit peut-être 15, en utilité, en bien-être, en bien-vivre.
Toi qui es là depuis un an et demi, tu disais, est-ce que tu as exercé tes talents dans le Diwa ?
Alors ça commence. J'espère pouvoir donner envie à d'autres personnes de tenter l'aventure pour voir un peu ce que ça donne de travailler avec quelqu'un qui a fait de la maîtrise d'œuvre sur des projets pas énormément de grosse taille, mais justement en allant vraiment jusqu'au bout avec les gens. Et là, donc, je travaille sur deux projets. L'un qui est un peu en attente d'une obtention d'un permis de construire à Montmort-en-Diwa. Petit projet qui m'a passionnée parce que c'est une petite habitation d'environ 50 mètres carrés, mais qui va être construite finalement sous un... C'est souvent le contexte dans le Diwa, c'est-à-dire qu'on a une magnifique région, des lieux, je trouve, pour l'instant très préservés. Mais on va vite à la catastrophe à cette échelle, parce que dans un village, une maison mal implantée abîme tout pour les autres, en tout cas, pour pas forcément ceux qui sont sur la butte avec une belle vue, mais ceux qui viennent en promenade ou qui passent simplement par là. Et là, c'était un projet intéressant où on gardait, accolé à une grange, mais en fait, on ne touche pas cette grange, on construit une petite habitation en trois petits volumes qui viennent s'insérer entre l'existence sous un grand auvent de hangar agricole, en fait. Voilà, dans l'idée de venir s'immiscer discrètement, faire comme si après, quand c'est fait, il ne s'était pas passé grand-chose, ou alors au contraire, que c'est plutôt quelque chose qui a amené. L'idée, ça serait bien sûr qu'à chaque fois qu'on fait un petit projet quelque part, on amène peut-être un nouveau regard sur le lieu, tout en le respectant, bien sûr, qui est la première chose. Avec mon associé, parce que je suis associée aussi d'une toute petite agence, une micro-agence, on est deux, hein, artisanale, qui s'appelle Zip Architecture, d'où mon petit nom de Little Z. Je vous dirai si ça vous intéresse.
La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte.
Les sourires de nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre.
La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte.
La pauvreté est notre sœur, elle nous a élevés. La poussière et la sueur, tout ce qu'elle avait à nous donner. Elle nous colle à la peau, nous retient auprès d'elle, bien décidée à ne jamais nous laisser voler de nos propres ailes. Pour nous chaque jour est le même jour sans fin, chaque jour les nôtres enfin, et la fin pour certains justifie les moyens. La violence est désormais devenue la règle, l'unité s'éloigne un peu plus chaque jour quand la confusion règne. Combien d'affrontements, fratricides et sanglants, combien de coups de feu jour après jour, combien de corps gisants, combien d'overdoses dans les coins sombres de nos bidonvilles. Combien de lunes, combien d'années encore nous faudra-t-il? La division à coup sûr sera notre mort. Notre peuple est si fier quand il s'unit, il est si fort. Cette lueur qui nous reste quand le sort sur nous s'acharne, cet invincible espoir porte un nom.
La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte.
de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre.
La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol.
Parler des éventuels projets qu'ils ont commencé ici dans le Diwa. Donc il y avait un petit projet, voilà, dont j'attends le permis de construire. Et puis sinon, je travaille sur un projet très très intéressant en ce moment avec mon associé chez Zip Architecture sur Barnave, le vieux bâtiment qui s'appelle l'ancien orphelinat. En fait, je crois qu'il y a finalement pas beaucoup de monde qui savait que c'était a priori un ancien orphelinat à la base.
Tu parles de ce bâtiment avec cette grange-là
Voilà, donc c'est le bâtiment qui est accolé à la halle qui reçoit chaque année la grande et belle fête de la caisse à savon. Et c'est un bâtiment qui, pour l'instant, finalement, il est devenu un peu inexistant parce qu'il est en train de tomber tranquillement en ruine, en tout cas de beaucoup s'abîmer. Et la mairie se pose des questions sur ce bâtiment depuis au moins 2-3 ans. Ils ont avancé pas mal de pistes, des débuts de projets, des pré-projets. Et puis finalement, ils ont décidé, et ils ont eu bien raison, je pense, de faire un appel d'offres public, donc un appel à candidature, sur lequel j'ai répondu avec mon associé, Vincent Nicolo. Et on était motivés. Je pense qu'on avait toutes les compétences par rapport aux travaux, aux projets qu'on a déjà faits en termes de rénovation et autres. Et la mairie de Barnave donc nous a confié, on était très contents, ce projet où il s'agit de réhabiliter le bâtiment et en fait de créer un local, un atelier de boulangerie, donc pour le boulanger d'Oslon qui va se rapprocher un petit peu, et qui vend sur le marché là le mercredi et le samedi, Alexandre et Aurélie. Donc on est très contents de travailler pour eux. À côté va se créer aussi un local plus associatif, on va dire d'intérêt collectif pour la mairie de Barnave et pour différentes occasions ou associations. Et puis à l'étage, on réalise également un logement social locatif sur deux niveaux de 90 mètres carrés et un atelier. Et l'ensemble du projet est très intéressant. Il mêle en même temps, bien sûr, mettre en valeur l'architecture traditionnelle, les façades du bâtiment qui ont été un peu remodelées à travers le temps pour s'adapter aux usages. Donc c'était peut-être un orphelinat à un moment, puis forcément utilisé pour l'agriculture. Donc on sent que les ouvertures ont été modifiées petit à petit. Donc l'idée, c'est de valoriser tout ça, les belles voûtes qui sont au rez-de-chaussée. Puis par contre, à l'étage, le bâtiment était très mal orienté. Donc pour construire des logements ou ateliers qui ont besoin de lumière et de soleil, par rapport à aussi des histoires, bien sûr, d'apport solaire, de qualité, on va dire, environnementale du bâtiment, etc. Et puis, bien sûr, de budget, parce que le budget est très serré et qu'il y a beaucoup de travail sur ce bâtiment. Le parti pris a été de construire deux bâtiments, mais ouverts et réorientés sur une grande, grande terrasse. Donc, on ne reconstruit pas tout l'étage, on fait tomber une partie du toit, ce qui permet une économie de certains coûts. Et voilà. Le projet est très intéressant. Le chantier devrait commencer début octobre.
Quelle est ta formation ?
Alors ma formation, moi j'ai suivi après le bac l'école d'architecture de Grenoble, où je dois dire que j'ai eu un excellent professeur. À l'époque, on pouvait choisir quelques professeurs, donc j'ai pu aussi le choisir comme pour mon mémoire de diplôme, de travail personnel de fin d'études. Et puis ensuite, j'ai pu faire un DESS de paysage et aménagement en région méditerranéenne sur Marseille. Donc, il m'a amené aussi quelques clous en termes de... Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'idée de l'insertion, en fait, des bâtiments dans leur environnement, parce que très, très souvent, il y a des erreurs qui sont faites dès le départ, c'est-à-dire la façon dont un bâtiment, une maison, va s'installer sur son terrain. Bien sûr, ce qu'il y a autour, bien sûr, ce qu'on va dégager comme vue pour la maison, ceux qui sont à l'intérieur, mais c'est vraiment aussi toute l'intégration en termes de respect du paysage existant, de l'idée de... de venir en douceur et de rester discret, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et donc, ça m'a permis, voilà, après d'aller travailler une année à Londres, entre autres, et puis donc, dans un département paysagiste, plutôt des paysagistes d'une grosse agence d'architectes à Londres pendant un an, qui était très formateur. Et puis, bon, bien sûr, d'avoir les yeux d'un architecte dans une immense ville comme Londres était assez intéressant. Et puis sinon, j'ai travaillé aussi en tant que plutôt urbaniste pendant une année dans une agence de Grenoble. Et puis voilà, depuis 2002, je travaille à mon compte sur des projets plutôt petits, moyens. L'idée étant de rester une agence artisanale d'architecture, rester proche des gens, rester proche de leurs besoins, de leur budget, bien sûr, parce que c'est vraiment le fer de lance aujourd'hui. Les coûts des terrains, des achats immobiliers, le coût des matériaux étant extrêmement élevé. Ce qui me fait beaucoup râler, parce que du coup, il n'y a plus de place pour la conception, le travail sur l'espace. Il n'y a plus de place. Les gens ont plus d'argent et croient du coup que ils vont se passer d'un architecte et ils feront quelques économies. Moi, je dis souvent, attention, on peut aussi avoir les vues qui font qu'on va faire... phaser les travaux ou voir les choses différemment qui font que voilà, on va peut-être en effet dépenser un peu d'argent, mais aussi peut-être en gagner évidemment sur la qualité à la fin, ça c'est, j'en doute pas, mais aussi en termes de planning, de tenue, on va dire, de déroulement des études et après du chantier, puisqu'on se rend compte que les gens dans le privé aujourd'hui, c'est dur quoi, de maîtriser tout ça et finalement ils perdent pas mal de temps, ils perdent patience parfois ou courage, voilà.
Judith, quelles sont les tâches que l'architecte s'engage à faire de la moindre chose liée à une construction, justement ?
On va dire la tâche principale suivant la mission que vous vous êtes vu confier, c'est soit de déposer un dossier de permis de construire, l'idée n'étant pas du tout de déposer pour moi un dossier administratif, mais de réfléchir à l'ensemble d'un projet avant tout, avant de finaliser un dossier. Et puis, ce qu'on aime, ce qu'on espère toujours, c'est bien sûr se voir confier une mission de maîtrise d'œuvre complète, comme on appelle ça, c'est-à-dire pouvoir aller jusqu'au bout pour accompagner les personnes qui viennent nous voir et qui nous confient un projet. Moi, je dirais après, en première tâche, pour moi, la première tâche, c'est un peu d'aller c'est d'aller complètement s'immerger et dans le lieu tout de suite de la commande, on va dire. C'est-à-dire sur un terrain où il y aurait éventuellement un nouveau bâtiment à construire, soit dans une maison, un appartement qu'il faudrait transformer, une maison qu'il faudrait agrandir ou transformer aussi, ou rénover. L'idée, c'est d'aller voir, de commencer à ressentir un peu l'ambiance, etc. Moi, en général, je garde toutes les sensations que j'ai pour moi. L'idée, c'est aussi dans ces premières visites, on va dire. C'est-à-dire que je ne dis pas forcément grand-chose. Je pose beaucoup de questions. L'idée, c'est de mieux s'immiscer dans les envies des gens et surtout la façon dont ils vivent, parce que cet espace, ça va être eux qui vont l'habiter, le vivre. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir comment s'immiscer d'une façon... avec beaucoup d'amour d'une certaine manière, mais dans la vie des gens pour mieux savoir comment ils vivent et comment ils vont vivre du coup ces espaces, parce que ça va nous faire parfois dessiner un projet très différent. Après, bien sûr, il y a les étapes de concevoir une première esquisse. Donc la chose qui est très, on va dire, importante, je dirais, dans notre métier et qui est sans doute la moins comprise, c'est qu'on va repartir souvent de ces premiers moments sans dire grand-chose. L'idée, c'est de revenir en présentant une esquisse, donc un pré-projet, des points de départ. Donc moi, j'arrive souvent, ça m'est souvent arrivé de revenir en m'excusant d'avoir pas forcément fait mes devoirs, dans le sens où je revenais avec une réponse qui n'était pas forcément celle à laquelle s'attendraient peut-être les personnes qui venaient me voir, sachant que souvent, chacun a déjà beaucoup réfléchi à son projet. S'il passe le cap d'aller voir un architecte, il a déjà beaucoup avancé de son côté. Donc c'est important de bien connaître toute cette évolution, mais d'être capable aussi d'aller contre son, on va dire, contre ses idées, ou on va dire en tout cas d'être capable de les contrer quand on sent que ça va être mieux comme ça. Je revenais en disant, je ramène quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous m'avez demandé. Mais les gens étaient ravis parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément pensé à ça. Et qu'en effet, tout d'un coup ça s'éclairait, que c'était beaucoup mieux en effet, ou plus simple, ou ah mais oui, mais ah, et du coup on pourra. Et ça, ça fait très plaisir, je dois dire, ces moments un peu où on sent qu'on amène vraiment justement ses compétences, parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on est reparti avec quelques photos, des plans s'il y en a, mais souvent pas grand-chose. Donc on revient d'abord une deuxième fois à ce qu'on appelle faire un relevé d'état des lieux, c'est-à-dire avec nos mètres, nos lasermètres, prendre toutes les dimensions intérieures, extérieures. Souvent, il faut prendre comme ça, en tout cas dans le Diwa, où il n'y a rien, heureusement, de complètement orthogonal, car il y a eu toujours beaucoup d'autoconstruction, c'est-à-dire une architecture très maîtrisée d'une certaine manière pendant longtemps, mais par des gens qui n'étaient pas architectes. Aujourd'hui, cette science infuse, on va dire, ou cette connaissance un peu, que ça soit de l'orientation, des vents, c'est un peu perdu. Donc, il y a plus, on va dire, une sensation que voilà, les gens feraient mieux de nous appeler, parce que nous, on va à un moment repartir chez nous avec tous ces éléments et faire un travail que j'appelle un peu un travail d'abstraction, qui est de sortir notre matériau, je dirais, de base, qui est un rouleau de calque. Et un rouleau de calque, ça va simplement servir à venir commencer à redessiner l'espace qu'on a vu ou qu'on doit créer, commencer à mettre en place un certain nombre de choses et pouvoir après se remettre avec une nouvelle couche sur cette première réflexion et avancer petit à petit comme ça. Je dirais que c'est une forme un peu d'abstraction. C'est là que notre métier est sans doute le moins compris. Et pourtant, c'est la clé de notre travail, c'est-à-dire... arriver à travailler comme ça sur l'espace avec tout ce qu'on a de contraintes et d'existants et de programmes, etc. Mais en même temps, en venant amener cette espèce d'intuition et de savoir sur le dessin de l'espace, et etc. Voilà, après va se suivre, on va dire, des allers-retours pour faire avancer un projet, suivant les réactions, suivant les... Parfois, ça va très vite, puisque les gens sont... Ça m'est arrivé que ça aille très vite, parce que les gens étaient emballés par des idées qu'ils n'avaient pas forcément eues, et puis que du coup, à chaque fois qu'on propose quelque chose, ça, c'est vraiment une avancée. Donc, petit à petit, pour finaliser un projet, jusqu'à... Donc, on passe par une phase qui s'appelle l'APS, avant projet sommaire, après un APD, où entre-temps, on a commencé à préciser des matériaux, des...
L'APD, bien sûr, ça signifie quoi ?
Avant projet définitif. Donc ça, en gros, nous, c'est la phase qu'on veut vraiment avancer avant de déposer un permis de construire. Il y a beaucoup de personnes qui vont déposer un permis pour se débarrasser vite fait du dossier, mais qui n'ont pas du tout abouti un projet, qui fait qu'après, ils vont soit devoir se coller à ce qu'ils ont présenté à l'administratif, soit refaire des modificatifs, qui sont des dossiers un peu lourds aujourd'hui à faire, ce qu'on vous demande, comme partout, surtout en France, on est les spécialistes, beaucoup, beaucoup de paperasse et de pièces. Et au final, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir complètement visité et arrêté un projet, même dans la façon dont il va se construire. Ça n'empêche pas des évolutions après, mais au niveau de l'APD, après, on peut poser un permis de construire. Et après, va venir une phase qu'on appelle le dossier pro-projet, où en gros, on précise tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a nous, mais il y a aussi les artisans qui vont intervenir pour passer les fluides, l'électricité, du chauffage, des câbles. Donc, c'est des allers-retours que moi, personnellement, qui m'intéressent beaucoup avec les artisans.
C'est l'architecte qui établit une espèce de cahier des charges.
Voilà, un cahier des charges, donc tout un descriptif des travaux. Plus on est précis, plus on connaît, nous, notre projet, et face à des personnes qui vont le réaliser, qui sont les indispensables personnes qui vont mettre en œuvre un peu ce qu'on réfléchit, ce qu'on dessine. Donc c'est vrai que les artisans, pour moi, c'est un lien évident, on va dire vital. J'ai souvent, personnellement, une relation assez humaine avec eux. Ils m'amènent beaucoup. Je suis beaucoup en discussion avec eux, à leur demander aussi leur point de vue par rapport à la façon dont ils vont faire. Bien sûr, des questions de durabilité dans le temps, qui est une vraie question. Loin des émissions de déco qu'il y a aujourd'hui à la télévision, voilà, où on vous présente des magnifiques projets d'intérieur, soi-disant, mais j'aimerais bien venir visiter 3 semaines plus tard le lieu, après un peu d'usage, on va dire.
Et justement, tu as des projets, tu m'as parlé d'une bergerie, c'est ça, qui avait été réhabilitée en logement.
Voilà, c'est ça. Donc là,
est-ce que ça, c'est visitable pour apprécier ton travail?
Alors, je vous emmène avec plaisir voir cette donc, ancienne bergerie, grange réhabilitée en maison d'habitation. Il y a encore 2-3 petits finishes à faire, mais tout y est presque. Et c'est pour moi déjà le grand luxe. Dans un endroit magnifique, là, à 25 minutes de Die, dans le Val-de-Quin, tout au bout. Et donc, c'est pour ça que je suis là aussi ici. Après avoir rénové cette grange, je n'ai pas tellement eu envie de repartir. Au départ, moi, je viens de Grenoble. Ma mini-agence, dont je suis encore associée, Zip Architecture, est à Grenoble et puis un peu ici, puisqu'on travaille sur Barnave, puis qu'on va essayer de développer d'autres projets. Et puis moi, en solo, en Little Z, j'ai vraiment eu envie de rester, de m'implanter ici et d'essayer de faire avancer les choses, parce que je pense que c'est une région assez extraordinaire et qu'il y a un patrimoine bâti assez extraordinaire, mais qu'il est très très vite, abîmable. Donc là, cette expérience pour cette ancienne bergerie, c'était voilà, vraiment de voir ce qu'on pouvait amener en tant qu'architecte, avec une réflexion pour amener ce qu'on aime, plus d'espace, plus de sensations de volume, de lumière dans cette architecture dromoise très belle, mais en même temps un peu fermée, bien sûr. J'entends souvent dire les gens qu'ils aimeraient bien voir plus vers l'extérieur, justement, ce beau paysage. Mais voilà, avant, on était contraint par la dimension à franchir d'un linteau en bois ou d'un linteau en brique un petit peu arqué pour supporter la charge du mur au-dessus. Et donc, les fenêtres étaient, on va dire, conditionnées, leur taille, par des choses techniques, comme souvent l'architecture. C'est tous ces liens qui sont intéressants. Voilà, là aujourd'hui, on a d'autres matériaux, dont parfois du béton armé ou une belle poutre en bois plus conséquente que ce qu'on pouvait trouver avant pour faire un beau linteau et faire, voilà, si vous venez voir, il y a une visite ce samedi là dans le cadre de ces portes ouvertes d'architecture. Ceux qui sont intéressés peuvent venir à 10h30 au parking de Méros et on va monter là-haut, faire une petite visite et boire un café dans un lieu qui est extraordinaire, avant la maison. Géographiquement parlant.
C'est 6 et 7 juin, ça se déroule sur 2 journées donc, et ça se passera principalement au 31 rue de Chastel, chez toi.
Voilà, donc c'est...
Alors ça se passe comment, ces 2 journées, mis à part samedi matin, avec cette visite de cette...
Alors en fait, voilà, les architectes ouvrent leurs portes et pour venir voir ces coulisses des architectes, c'est à partir de vendredi 14h. Donc moi, les portes seront ouvertes avec un grand plaisir à partir de 14h. La rue de Chastel est très jolie, elle se prend depuis en face du Vival, elle est discrète. Donc souvent, on me demande, mais c'est quelle rue? Donc elle part de presque en face de chez Cyril, pour les connaisseurs. Elle monte et puis on redescend vers un lavoir. Moi, je suis dans la redescente sur la gauche avec un petit bureau qui donne directement sur cette rue qui a été refaite aux frais de la mairie et de tout le monde. Donc venez voir, il y a une rue pleine de roses très très belle. Et voilà, à un endroit, au 31, il y a le petit bureau de Little Z. Donc il vous accueillera jusqu'à de 14h jusqu'à 19h. Il y a un atelier là de 5 à 7. L'idée c'est de venir découvrir un peu les outils de l'architecte et puis faire pourquoi pas un peu de maquettes, quelques collages, créer votre petites envies d'espace, ou en tout cas des prémices.
Des activités pour tous, adultes, enfants?
Pour tous, voilà, n'hésitez pas. Je pense que j'aime pas spécialement toujours séparer forcément les petits, des moyens, des grands. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens à garder et à continuer de créer entre tous.
Et il y aura une projection également, c'est ça?
Voilà, l'idée c'était de projeter un film que j'aime beaucoup, qui parle d'architecture, mais aussi de plein d'autres choses, qui n'est pas du tout un documentaire, qui est un vrai film. On part dedans, qui s'appelle My Architect, et qui a été fait par le fils d'un grand architecte américain, enfin d'une personne qui est devenue quelqu'un de très très important pour l'architecture du XXe siècle, pour le monde entier, je pense. Voilà, même s'il a plutôt travaillé aux États-Unis.
Était son nom, par exemple?
Il s'appelle Louis Kahn. Et donc, c'est son fils qu'il a très peu connu, parce qu'il est décédé quand il avait 5 ou 7 ans, je crois. Il dit 7 ans, il me semble. Il est parti, en gros, pour connaître de manière posthume son père, qui était devenu quelqu'un de célèbre, surtout dans le domaine de l'architecture. Voilà. Et donc, une projection à 21h30, le temps qu'il fasse nuit, parce que l'idée, c'est s'il fait beau, de rester dehors, un peu dans la rue. Ça sera sympathique, je pense, et c'est un très beau film. Et puis, donc, le lendemain matin, il y a cette visite de ce lieu pour ceux qui auraient envie. Et moi, quand je redescends, je rouvre vite les portes du bureau au 31 rue de Chastel, donc à partir de 14h, 13h30, 14h.
Pour les auditeurs intéressés pour ces deux journées, je les invite à aller sur le site internet portesouvertes.architecte.org. Voilà. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Little Z ? Qu'est-ce que c'est ça, Little Z ?
Alors, Little Z, bon, il y aurait peut-être maintenant plusieurs choses à y mettre, mais au départ, simplement, c'était mon petit nom au bureau, parce que notre petite agence de base, on va dire, où tout a commencé, s'appelle plutôt Zip Architecture. Zip, c'est d'abord une fermeture à glissière étanche, c'est le vrai nom, c'est ce que ça veut dire. Et dans l'idée, c'est qu'on ouvre et on referme l'enveloppe protectrice de notre habitat régulièrement, donc avec ce zip, cette fermeture éclair. Zip aussi en référence à la maison, au bâtiment, que pour nous, c'est vraiment le deuxième habit de l'homme. L'homme ne s'en rend peut-être pas compte assez, mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui participe énormément et plus qu'on croit à son bien-être général dans la vie. Nous, notre idée, c'est de rester un peu des artisans architectes, donc que chaque projet est vraiment chaque projet qu'on fait, donc c'est pas ce qui nous rend bien riches, mais un prototype et pas justement une maison qu'on va pouvoir faire en 10 exemplaires pareil avec 2-3 petites modifications suivant l'orientation. En fait, on était justement Zip, c'est en référence à la couture, parce que cette idée qui nous tenait très très à cœur, en fait, de rester une agence artisanale d'architecture pour rester proche des gens, vraiment une échelle humaine où on peut accompagner jusqu'au bout, construire, rénover, aménager, réhabiliter, tout ça, faire tout ça comme on taillerait un vêtement sur mesure, à la mesure des gens, vraiment être à leur écoute, être dans une disponibilité, s'adapter vraiment à chaque fois à une demande particulière, à un contexte, à des contraintes budgétaires souvent, parce que on est souvent face à des gens qui ont un budget restreint et l'important c'est d'essayer au maximum, quitte à les décevoir en faisant un peu moins, mais de garder tout ça. Et puis juste pour finir, on s'appelle Zip aussi parce qu'en référence à cette merveilleuse invention de la fermeture éclair, vous voyez tous ces petits picots là qui s'imbriquent les uns à la suite des autres pour pouvoir fermer ou ouvrir nos vêtements au jour le jour. Et voilà, dans l'idée qu'un projet d'architecture, ça imbrique aussi beaucoup, beaucoup de monde, c'est-à-dire nous, ceux qui conçoivent, mais bien sûr ceux qui vont vivre. Et puis entre-temps, tous ceux qui amènent leurs idées, leurs compétences, leurs solutions pour pouvoir à la fin avoir construit une maison, un bâtiment qui va durer, dans lequel on va se sentir bien, qu'on va être content d'aller voir ou triste de quitter.
Au niveau des architectures anciennes qu'on peut trouver dans le Diwa, est-ce qu'il serait possible de refaire des bâtiments à la manière de celles qui existent, les vieux bâtiments, c'est-à-dire en pierre, en moellon et en charpente bois?
Alors aujourd'hui, malheureusement, le temps coûte trop cher, surtout en France. Pas qu'en France, mais on va dire le coût du travail étant très cher. Aujourd'hui, construire en pierre, ça devient une aventure, on va dire, réservée à des personnes qui ont vraiment un budget. Donc c'est vrai qu'on voit aujourd'hui partout arriver beaucoup plus de constructions en ossature bois, qui est au départ, outre le matériau qui est présent, plus ou moins localement, parce qu'il y a des gens qui font aussi venir du bois de très très loin. Donc là, on n'est plus tellement dans des histoires toujours très écologiques. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a l'idée de pouvoir construire en atelier des panneaux un peu préfabriqués. Donc ça fait vraiment partie de l'histoire de l'architecture, on va dire, toujours ce travail de trouver des solutions pour gagner du temps éventuellement de réalisation, tout en restant gagner de la solidité, de la légèreté pour mettre moins de matière. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire, l'architecture drômoise, c'est plutôt un très beau patrimoine. Mais je considère aujourd'hui éclairer ce patrimoine, c'est parfois venir construire quelque chose de plus contemporain juste à côté pour mettre un peu en dialogue, pour mettre en regard l'homme aujourd'hui. On a des vies aussi très très différentes d'il y a un siècle, quoi, à cette bergerie là qui a été réhabilitée d'un haut du Val-de-Quin. C'est, on sent vraiment, quoi, que la maison aujourd'hui a été faite pour des gens du 21e siècle. Il y aura bientôt Internet. Et à l'époque, c'était la maison des animaux avec à côté les personnes qui habitaient là tout le temps, avec 300 moutons dans le champ. Voilà, donc ce grand pas d'un siècle, il se retrouve aussi dans l'architecture, bien sûr. Donc moi, je ne suis pas du tout pour les grands projets high-tech. Et j'ai beaucoup de soucis aujourd'hui à voir certains bâtiments qui sont construits, le coût qu'il va y avoir en termes de maintenance, en termes d'efforts pour maintenir le bâtiment qui reste à son état de départ. Je trouve à des moments qu'il y a des projets totalement scandaleux. Mais en l'occurrence, on reste responsable pendant 30 ans de ce qu'on a dessiné. Et donc ça, à toutes les phases, aussi bien ce qu'il y a sur nos plans. C'est-à-dire que si on a oublié de dessiner un garde-corps d'une belle porte-fenêtre au troisième étage d'un logement ou autre... Et que quelqu'un tombe de cette fenêtre et qu'il n'est en effet pas dessiné sur les plans, même si on n'a pas suivi le chantier, par exemple, en maîtrise d'œuvre complète, on va être responsable. Après, bien sûr, dans un chantier jusqu'au bout, voilà, on a toutes ces responsabilités à gérer, mais ça me paraît normal.
Eh bien, Judith, merci d'être passée. Je pense que tu auras encore beaucoup à parler ou à dire. Et pour ça, j'invite les auditeurs à se rendre chez toi au 31 rue de Chastel à Die, les 6 et 7 juin, pour cette journée des architectes ouvrent leurs portes, qui aura lieu dans toute la France, donc qui regroupe à peu près 30 000 architectes français. Voilà.
1000 agences, oui, c'est ça. Il y a 1000 agences. Et puis du coup, ben, bienvenue chez Little Z, n'hésitez pas. Et on pourra, même si vous êtes dans l'autoconstruction, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans le Divois, n'hésitez pas à venir me voir et à vous rendre compte qu'il y a énormément à réfléchir, à dessiner avant de vous mettre à construire une belle maison tout seul, ce que je trouve très chouette comme projet. Voilà. Et du coup, bah, on pourra parler de cette association qui est peut-être un peu en train de se former chez Little Z pour essayer... en restant dans des budgets tout à fait cohérents, enfin d'essayer d'accompagner les gens, de leur transmettre, de sensibiliser tout ce qu'il y a de passionnant dans ce métier et toutes les disciplines qui sont reliées sans fin. Voilà, et n'hésitez pas.
Voilà. Est-ce qu'on peut te joindre justement lors de ces journées?
Alors,
est-ce qu'il y a
problème,
un numéro de téléphone
donc
ou
moi, je vais laisser
internet.
Mon portable, je crois. C'est peut-être donc 06 85 19 28 69. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je regarderai, je pense, régulièrement mon adresse mail. N'hésitez pas pour toute question. Vraiment, vous êtes les bienvenus. C'est Judith, J-U-D-I-T-H, @littlez, en petites lettres, tout attaché, .fr. Voilà. Et ben, n'hésitez pas et je me ferai un grand plaisir de vous accueillir et de reparler de façon plus personnelle de tout ça.
Eh bien, merci Judith et bonne soirée.
Merci.